un petit peu le ménage. Hein. Voilà, bah, bonjour à toutes et à tous. Bah, moi aussi, ça me fait plaisir de voir des visages que je n'avais pas vus depuis longtemps. Et c'est vraiment un peu plaisant et agréable de se revoir. Et puis, vous savez, on se demande des fois comment un culte peut être dirigé. Ben, moi, je pense que c'est un culte ce matin qui est dirigé, franchement. Parce que quand Jean-O m'a demandé si je voulais faire le message aujourd'hui, il m'a dit jeudi, moi, il me faut à peu près un mois pour préparer un message. Et tout de suite, j'ai reçu psaume 23. Psaume 23. Pourquoi le psaume 23 ? Ben, j'ai compris ce matin. Parce que on a besoin du psaume 23. Voilà, c'est tout. Alors, si ce matin j'ai choisi de vous partager l'un des psaumes donc les plus emblématiques bah, de la Bible, mais aussi de David, c'est-à-dire le psaume 23. Souvent le psaume 23 on l'utilise pour les enterrements. Bon, mais je ne sais pas pourquoi, mais là je pense qu'on peut l'utiliser aussi pour que celui qui le lit, en principe, hein, moi je l'ai lu, le méditer, ça apporte à la fois des encouragements, du soutien et puis une assurance d'être aimé, accompagné et protégé. Alors, nul parmi nous ce matin n'ignore le monde dans lequel nous vivons. C'est vrai que, en fait, rien n'est facile et pour personne. On va traverser des épreuves, nous vivons des combats, nous sommes bien souvent fatigués et découragés, car souvent nous sommes faibles et sans force. En tout cas, moi je parle de moi, hein. Les gens du monde se cherchent des protections humaines, des protections visibles, mais nous, chrétiens, nous n'avons qu'une direction vers laquelle nous tourner, c'est Dieu. Voilà, nous, notre assurance, c'est Dieu. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, verset 15, Jésus, s'adressant au Père, dit « Père, je ne te prie pas, il parle de nous, hein, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Oui, frères et sœurs, vous l'avez bien entendu, la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous soyons hors du monde, c'est ne pas nous sortir du monde pour nous protéger, et que nous soyons sans contact avec le monde, placés dans une bulle hermétique, mais au contraire, c'est de nous protéger du mal par la main puissante de Dieu, notre protecteur. Alors le psaume 23 commence par cette affirmation pleine d'assurance. C'est quoi cette affirmation ? C'est « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors déjà, l'Éternel est mon berger. Alors, David présente l'Éternel sous les traits d'un berger. Alors c'est une image insolite, hein, mais en même temps pleine de signification, car David s'appuie sur sa propre expérience, sur ce qu'il connaît le mieux, et qui a un réel sens pour lui, puisqu'il a exercé cette activité durant toute sa jeunesse. 1 Samuel 16, versets 10 et 11. Vous savez, il y a Samuel qui vient et qui dit à Ésaïe, le père de David, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux, aucun de ceux-là, il n'a choisi aucun comme roi. As-tu d'autres fils ?» Alors Ésaïe répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Le pauvre vieux, il fait paître les brebis. En fait, on ne parle bien que de ce qu'on connaît, et surtout de ce que l'on a vécu. David, lui, dès sa jeunesse, reçoit de la part de son père l'ordre d'aller faire paître les brebis. Et lui, il s'exécute avec sérieux. Moi, je me souviens que lorsque j'étais jeune, ma sœur est là, quand mon père me confiait une tâche à faire, je la faisais le plus vite possible et pas toujours très bien, car j'avais hâte d'aller jouer au foot avec les copains. Pour moi, c'était plus important. Donc, quand il fallait tondre le gazon, je le tondais à toute vitesse, je faisais des trucs à toute vitesse pour aller jouer au foot. Mais David, lui, c'est un garçon qui très tôt fait preuve de responsabilité. Et à Saul, il dit dans 1 Samuel 17, 34, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, eh bien moi je courais après lui, et je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. » Incroyable, hein ? Pour David, le berger n'est pas un gardien de brebis passif, distant. Mais il fait corps avec le troupeau. Il se sent responsable de chacune des brebis, de chaque brebis. Et cette fonction pastorale, c'est la représentation que David se fait de Dieu et que l'apôtre Jean nous décrit au chapitre 10 de son évangile. Jésus dit de lui, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » On l'a chanté ce matin. Personne n'a obligé Jésus à donner sa vie, mais il l'a donnée lui-même pour nos péchés. Ça, on le retrouve dans Galates, chapitre 1, verset 4. Jésus, lui, il n'est pas un mercenaire qui, lorsqu'il voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite et laisse le loup les ravir et les disperser. Le mercenaire, lui, il s'enfuit parce qu'il ne se met point en peine des brebis. Il s'en fiche. Il est payé pour ça, mais il ne va pas risquer sa vie. « Je suis le bon berger, dit Jésus. Je connais chacune de mes brebis. Elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. » Vous le voyez, frères et sœurs, nous n'avons pas un Dieu mercenaire, un Dieu d'opérette. Nous avons en Jésus-Christ un Dieu qui n'a pas hésité à donner sa vie pour que les brebis vivent. Là, je vais vous donner un exemple personnel. Il doit y avoir environ 20 à 25 ans. J'étais jeune chrétien et j'étais parti avec mon très cher frère Silver, que beaucoup d'entre vous connaissent, en Guadeloupe, pour rendre visite à Vincent, un frère... oui, il est là. Il pourra en témoigner, un frère de l'Église. On s'était rendu à Marie-Galante, une île de Guadeloupe où se trouvait une très belle plage. Silver, lui, il a commencé à s'éloigner de la plage en nageant. Et, moi je ne savais pas, mais c'était une plage extrêmement dangereuse, avec des courants, etc. Et lui, il m'avait dit « je sais bien nager ». Mais en fait, bien nager, c'est il avait appris un petit peu à la piscine juste avant de partir. À un moment, j'ai vu qu'il me faisait de grands signes. Moi, j'ai cru qu'il me faisait bonjour. Moi, je lui dis bonjour. Mais en réalité, Silver était en train de se noyer. Alors, j'ai nagé vers lui et j'ai prié. Mais moi, je nage pas très bien. Hein. Et Silver est revenu vers moi et je sais que lui aussi, il a prié. Le pauvre, il avait avalé beaucoup d'eau de mer. Il aurait pu mourir. Mais je n'oublierai jamais ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, quand j'ai prié, c'était comme si une main invisible était sous moi et me portait et m'empêchait de couler. Sans l'intervention de Dieu, ni moi ni Silver n'aurions pu faire quoi que ce soit. Ce n'était pas possible. Dieu est intervenu puissamment. L'Éternel est le berger de David. Est-il le vôtre ce matin ? Est-il le mien ? Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David n'a pas eu une vie facile. Vous savez, il était le petit dernier, oublié et méprisé. Il a été pourchassé par Saül. Il a perdu des enfants. Mais Dieu ne l'a jamais abandonné. Psaume 27,10 de David. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut, car ma mère et mon père m'abandonnent, mais l'Éternel, lui, me recueillera. Et psaume 37,25, il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Jamais j'ai vu ça. Alors, je vous ai raconté, déjà, parce que je raconte des fois les mêmes histoires, donc si je vais le raconter, c'est pas grave. Qu'étant jeune chrétien, un jour, j'ai senti un très fort appel de Dieu à lui offrir ma vie. Je me souviens, j'étais au pied de mon immeuble, j'étais devant les boîtes aux lettres. Il n'y a rien de romantique là-dedans. Hein. J'étais à un tournant de ma vie. Dieu mettait devant moi un choix important. soit lui offrir ma vie, soit continuer à vivre une vie, bon, je ne sais pas vraiment malheureux, mais une vie vraiment sans relief, sans intérêt. Alors, je n'ai pas réfléchi longtemps, j'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie, mais que je ne manque jamais de rien. Voilà, je me souviens, pourquoi j'ai dit ça, ça ne sert à rien. Frères, sœurs, j'ai prononcé cette phrase il y a plus de 30 ans, et j'étais un homme seul, sans espérance, avec une profonde tristesse intérieure. Ma mère, elle pensait même que j'allais me suicider. J'étais inquiet et j'avais peur de l'avenir. Dieu a pris ma vie en main et m'a béni. Alors c'est vrai, j'ai connu des épreuves, hein, mais quel bonheur d'être béni par le bon berger. Vraiment, quel bonheur. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Enfin, je ne sais pas si le dessin le montre, mais des fois, c'est vrai, avec Dieu, il y a des moments où c'est l'extase. Hein. On a l'impression qu'on est bien. Matthieu 7, 10. Quiconque demande reçoit. Lequel de vous donnera une pierre à son fils qui lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Votre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Moi, j'ai demandé qu'il me manque de rien. Les verts pâturages sont pour les brebis, l'image du bonheur, de l'abondance, des bonnes choses que Dieu dispense. Par exemple, dans le psaume 65-10, moi je trouve que c'est un psaume extraordinaire. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Oh, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Vous vous rendez compte? Il y a des ruisseaux qui tarissent. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien. Et le ruisseau de Dieu est toujours plein d'eau. C'est fantastique. Alors, frères et sœurs, Dieu m'a donné une épouse. Je ne pensais jamais me marier. Il m'a donné 3 filles, alors que je ne pensais jamais avoir d'enfants. Il m'a donné une maison, une famille. Et il m'a donné vous, une église. Si Dieu m'a béni, ce n'est pas parce que je suis un homme très spirituel. Bon, plus spirituel que les autres. Parce que je me donne corps et âme au service de l'Église. Parce que Dieu m'aime un peu plus que les autres, c'est pas à cause de ça, hein. Mais parce que je lui ai fait confiance. Et qu'en tant que fils de Dieu, j'ai osé lui demander ce que mon cœur avait besoin de recevoir pour le servir. Il me dirige près des eaux paisibles. Psaume 4:9. Ça, tout le monde devrait... Tout le monde devrait le méditer parce que c'est un psaume qui concerne tout le monde. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Et est-ce que vous n'avez pas la sécurité dans votre demeure? Les eaux paisibles s'opposent aux eaux tumultueuses, qui sont un danger pour les brebis. Dieu, qui est un Dieu de paix, met la paix au fond de notre cœur et met la paix dans nos vies. Quand on se confie en Dieu, non seulement il nous dirige vers des situations calmes, mais encore il nous aide à rechercher la paix avec les autres. Romains 12, 18. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, eh bien soyez en paix avec tous les hommes. Frères, sœurs, combien, grâce à Dieu, j'ai été mis à l'abri des eaux furieuses, parce qu'il y en a eu dans ma vie. Hein. Et combien j'ai ressenti la paix du Seigneur à travers des épreuves que j'ai traversées. Alors pourquoi? Parce que je savais que Dieu interviendrait et que ce que je vivais n'était pas définitif. Avec Dieu, lorsqu'on lui fait confiance, on peut vivre ce proverbe « Après l'orage vient le beau temps ». Il y a des moments d'épreuve, d'orage, et puis on sait que grâce à Dieu, et bien après, ça va être beaucoup mieux. Oula. Excusez-moi. Il restaure mon âme. Et là, attention. Psaume 80, versets 3 et 4. Réveille ta force et viens à notre secours. Ô Dieu, relève-nous. Fais briller ta face en nous et nous serons sauvés. Restaurer, c'est remettre en état, c'est réparer. Mais c'est aussi redonner de la force, remettre en vigueur. Dieu nous restaure. en nous guérissant, en nous reconstruisant par le Saint-Esprit. Et là, je vous invite à venir au culte évangélisation du 3, où vraiment on parlera de reconstruction, du 3 mars. Je le dis pour ma sœur qui s'est trompée de jour. Mais Dieu nous restaure aussi dans nos fragilités, dans nos faiblesses. Et il y a une semaine, moi j'étais, enfin je sais pas si ça doit jamais vous arriver à vous, hein, mais j'étais épuisé, même en me levant le matin, j'étais épuisé, fatigué, et j'avais pas envie d'aller au boulot. Ça vous arrive pas, vous, parce que... Voilà, moi j'étais là et je disais au Seigneur, regarde, je dois apporter un témoignage de la joie de vivre en tant que chrétien, et t'as vu comment je suis ? Eh bien, j'avais à peine posé le pied, je vous dis, mais j'y peux rien, j'avais à peine posé le pied que je chantais en rentrant dans mon travail. Et il m'a donné des forces que je ne soupçonnais même pas. Et c'est dingue. Donc, voilà, le Seigneur, il prend soin de nous tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Vous savez, des fois, on se pose la question, hein, psaume 15:2, « Éternel, qui séjournera dans ta tente ?» Eh bien, la réponse est « Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et dit ce qu'il pense vraiment. » Le concept de justice, c'est la pratique de ce qui est droit et juste aux yeux de Dieu. Alors, vous savez que nous avons chacun un code culturel, familial, pour établir ce qui est juste. Notre code de justice est donc bien différent les uns des autres. Certains pensent que c'est juste de penser de telle et telle façon, d'autres, ben non, c'est pas juste. Pour le chrétien, ce qui est juste et bon, c'est ce que Dieu a déclaré juste. Voilà, c'est ça la justice. Un exemple parmi d'autres, ben, pour certains, se venger, c'est juste. Quelqu'un m'a fait du mal, ben je le lui rends. Je n'aurais moi-même pas pratiqué le mal, je n'aurais pas fait du mal. Mais puisqu'il m'a fait du mal, ben je vais lui rendre. Et ça, c'est pour certains, c'est juste, ne pas laisser une offense impunie. Mais pour Dieu, c'est différent. Romains 12, 17, 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Alors, frères et sœurs, moi, combien c'est une lutte, c'est un combat permanent pour moi dans ma vie de me laisser conduire dans la justice de Dieu et ne pas pratiquer ma propre justice. Les bénédictions spirituelles, morales, physiques, les restaurations, les guérisons physiques et spirituelles font partie de la vie quotidienne du chrétien et appellent de sa part une reconnaissance éternelle à son Dieu. Moi, quand je pense à tout ce qu'a fait Dieu, j'ai qu'un mot, c'est reconnaissance. Reconnaissance. Seigneur, je ne mérite pas tout ce que j'ai reçu. Je le sens vraiment. Je ne mérite pas, Seigneur. Mais je l'ai reçu parce que tu m'aimes. Pas parce que je suis meilleur que les autres, c'est parce que tu m'aimes. Alors la vie chrétienne n'est pas faite que de bénédictions et de restaurations. Elle est aussi faite d'épreuves, de combats spirituels et de souffrances. Psaume 88, 10 de David. « Mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel. J'étends vers toi mes mains. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles ? Les morts se lèvent-ils pour te louer ? Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. » La vallée de l'ombre de la mort, dans la version second. C'est une image qui a de quoi effrayer. On a beau savoir qu'on n'est que des voyageurs sur cette terre, que notre vraie patrie se trouve dans les cieux, hein, c'est vrai, hein, on n'est pas des gens à vivre éternellement ici, mais j'entends peu de gens dire autour de moi, comme le disait Paul, « Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Ben, » on a tous envie de rester, quoi. On n'a pas envie de partir. Êtes-vous déjà passé par la vallée de l'ombre de la mort ? C'est un endroit à la fois effrayant et glauque, car on entrevoit, on touche par la pensée la possibilité de mourir. Que l'heure est arrivée, mais en même temps, c'est un instant de vérité, car on est face à face avec soi, avec Dieu et avec sa foi. Moi, il y a de cela plusieurs années, j'ai cru vraiment mourir, franchement. J'ai vraiment pensé que j'allais partir. Et il n'y a aucune possibilité de fuir ou de lutter. Simplement de crier à Dieu, « Seigneur, s'il te plaît, sauve-moi. » Vous savez, j'entends souvent dire, « Un chrétien ne doit pas avoir peur. » Moi, j'ai eu peur. « Un chrétien ne doit pas être malade. » Moi, j'ai été malade, j'ai souffert. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour celles et ceux qui n'ont pas peur. Ça existe. Qui prennent autorité sur la maladie, moi je dis, je ne suis pas un super chrétien. Voilà, je suis, dans ce domaine-là, je ne suis pas un super chrétien. Mais il y a une chose que je partage avec David, c'est la confiance. La confiance que m'inspire Dieu. Il est mon protecteur et mon berger, ça ne pourra jamais m'être enlevé. C'est entre ses mains que se trouvent la vie et la mort. On peut lutter contre l'insulte, on peut lutter contre la fatigue, contre les attaques de Satan. Mais qui peut vaincre la mort? Qui peut nous en protéger, sinon Dieu? Lorsque Jésus dit à ses disciples, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », Matthieu 28, 20, eh bien, il leur affirme deux choses. « Je suis à vos côtés, je suis là, présent, mais aussi je suis pour vous ». J'agis en votre faveur, je vous encourage. Voilà. Hein? Il est présent, mais en même temps, il agit pour nous. Oh ben, décidément. Après. David, dans le psaume 27, pouvait dire « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Au fond, c'est vrai, on sait que Dieu va intervenir. Dieu est-il présent dans notre vie, dans les bons comme dans les mauvais moments? Ta houlette et ton bâton me rassurent, dit David. Vous voyez, c'est extraordinaire parce qu'en même temps, il ne craint aucun mal, mais en même temps, le bâton et la houlette le rassurent. Donc il est rassuré, même s'il ne craint aucun mal. Eh bien, si David ne craint aucun mal, il a besoin quand même d'être rassuré. On peut avoir confiance en Dieu et chercher des motifs pour se rassurer. Moi, il m'arrive souvent, alors je ne sais pas pour vous, hein, si vous êtes comme moi, de dire à Dieu, « Oui, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que tu me protèges, mais j'ai besoin d'encouragement pour être fortifié, encouragé. Donne-moi, s'il te plaît, de petits encouragements dans ma vie. » Et il m'en donne. Et ça me fait du bien, ça me rassure, ça m'aide à avancer. Demander un encouragement, chercher à être rassuré, c'est pas un péché, mais un acte spirituel normal. Nous ne sommes que des hommes. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Vous savez, une coutume du Proche-Orient voulait qu'on verse de l'huile parfumée sur un invité et que celui-ci soit protégé à n'importe quel prix par son hôte. Eh bien, c'est ce genre de protection que Dieu nous offre, même lorsque nous sommes cernés par l'ennemi. Voyez, il y a deux passages bibliques qui me rassurent personnellement, qui me font vraiment du bien. Je vous les livre. Hein. Zacharie 2, 8. « Car ainsi parle l'Éternel. Celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. » Alors ça, c'est bien dans les relations avec au travail notamment. En réalité, tout croyant est précieux aux yeux de l'Éternel. Nous sommes ses enfants, alors faire du mal à l'un d'eux équivaut à faire du mal à Dieu. Et c'est important de savoir que Dieu s'occupe de tous ceux qui nous font du mal. Moi, je pourrais vous raconter beaucoup d'histoires qui me sont arrivées par rapport à des gens qui m'ont fait du mal. On n'est pas appelé à se venger. Et puis le deuxième, c'est Zacharie 3:1. Dans le combat spirituel. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, et Satan, qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ?» Dieu, en Jésus-Christ, nous a délivrés de l'esclavage de Satan. Il nous a arrachés au feu de l'enfer. Et maintenant, il nous protège de ses attaques et de ses agressions. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Et ma coupe déborde. Hein, quand on boit du champagne, on aime bien que la coupe déborde. Dieu, nous l'avons dit, est un Dieu d'abondance. Nous, c'est vrai, en général, on donne avec mesure. Hein. Ça va peut-être nous manquer, on donne peut-être pas trop, on fait gaffe. Dieu lui donne toujours avec largesse, avec abondance. 2 Corinthiens 9:8. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Voilà, c'est-à-dire que Dieu, il va nous donner. Il va nous donner. Dieu donne en abondance, mais attention, il dit aussi, dans le même verset, hein, 2 Corinthiens 9:6, « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Voilà. Moi, je vous donne en abondance, mais vous, il faut rendre. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Moi, j'aimerais ce matin rendre grâce à Dieu pour tous les petits miracles, alors petits miracles, hein, entre parenthèses, hein, entre guillemets, que Dieu fait chaque jour dans nos vies. Des petits miracles qu'on ne voit pas, parce que nous, bien souvent, on est à la recherche et dans l'attente de grands miracles. On veut voir des guérisons, on veut voir des choses spectaculaires, des choses magnifiques et merveilleuses. Alors, ça n'empêche pas, hein, mais des fois, ça nous empêche de voir les petits miracles que Dieu fait tous les jours. Et quand on les regarde, mais on est béni chaque jour. Alors quand on attend des grands miracles, et puis on dit, mais on ne les voit pas venir, on ne voit rien, Seigneur, qu'est-ce que tu fais, pourquoi? Ben, regardons déjà les petits, et après, le Seigneur, il nous donnera des plus grands. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Vous savez que parmi les peurs du chrétien, il y a celui de perdre son salut, de ne plus être dans l'amour du Christ, de Dieu, quitter la foi. David, lui, n'a pas ces problèmes-là. David, lui, il fait confiance en son Dieu. Il habitera la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ses jours. Alors moi, je vous laisse 2 passages bibliques qui vous montrent que quand on s'engage avec le Seigneur, quand on va jusqu'au bout, eh bien le Seigneur, il est là et il nous accompagne. Philippiens 1:6. Je suis persuadé, dit Paul, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre du salut la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Voilà. Ce qu'il a commencé, il l'amènera jusqu'au bout avec nous. Et puis alors, la cerise sur le gâteau, c'est Romains 8, versets 38-39, qu'on pourrait presque dire ensemble, si vous le lisez. « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Vous le croyez? Amen. Voilà, je vais prier maintenant, si vous voulez bien, et remettre vraiment notre vie entre les mains du bon berger. Seigneur, tu es vraiment notre bon berger. C'est vrai, Seigneur, c'est toi qui es venu nous chercher. Tu nous as ouvert la porte, tu as frappé à notre cœur et tu nous as fait entrer dans le pâturage. Et maintenant, Seigneur, tu nous amèneras jusqu'au bout. Seigneur, la confiance que nous avons placée en toi n'est pas une confiance qui est aveugle et une confiance qui ne s'appuie sur rien, mais sur la croix, sur ton sacrifice. Toi, Seigneur, tu as donné ta vie pour nos péchés. Tu n'as pas hésité à mourir. Et nous savons, Seigneur, que quoi qu'il arrive, tu nous accompagneras jusqu'à la fin, car tu es avec nous tous les jours par ton Saint-Esprit, avec nous jusqu'à la fin du monde. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen.